Vous êtes sur RTL.
9h30. RTL. J'ai porté une tresse pendant très longtemps. J'avais les cheveux jusqu'à la taille.
Le journal inattendu.
Je voudrais, moi, vous parler d'un livre, parce que ça faisait longtemps, croyez-moi, que j'étais pas tombé sur un premier roman aussi remarquable.
La tresse de Laetitia Colombani, révélation du mois de mai et succès de l'été. Allez, j'en fais les paris. Si ça ne marche pas, je me rase la tête.
12h30, 13h30.
The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Laetitia Colombani est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
Bonjour Laetitia Colombani.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver dans ce grand journal inattendu pour une heure. Merci d'être avec nous en tout cas. Et puis je vous rassure, j'ai croisé Bernard Lehu ce matin. Et sa coupe de cheveux d'été. Déjà, il est prêt à partir sur des chemins de traverse avec vous, des chemins d'écrivain comme il l'a déjà fait. Combien de fois un homme peut-il tourner la tête et prétendre qu'il ne voit tout simplement pas ? La réponse, mon ami, souffle, vole dans le vent. Votre premier choix musical était Blowing in the Wind, interprété attention par John Baez. Hein ?
Oui. Ouais. Oui, j'ai grandi avec la voix de John Baez, mon père en particulier est un très très grand fan. Et donc cette chanson et les autres ont bercé mon enfance. Et puis ce que raconte cette chanson, les paroles de Bob Dylan, c'est de la poésie, de la philosophie, c'est une forme d'humanisme aussi qui me touche.
Humanisme, humanité, solidarité, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Après le succès de la tresse, rappelons-le tout de même, 1 million d'exemplaires vendus, traduits dans 35 langues, avant une adaptation sur laquelle vous travaillez en ce moment au
Absolument.
Cinéma. On vient de voir sortir dans les plus belles librairies ou sur les liseuses, comme je disais tout à l'heure. Les Victorieuses, c'est votre deuxième roman, c'est fort aussi. L'accueil déjà, il est comment aujourd'hui ?
J'ai un très très bel accueil. Disons que les premiers retours des lecteurs et lectrices qui ont aimé la tresse me disent qu'ils retrouvent une veine commune dans Les Victorieuses.
Trois destins, trois continents différents reliés par un fil. C'était évidemment la tresse. Et là, cette fois, ce sont deux parcours de vie, de grands combats séparés d'un siècle. Devoir de mémoire, devoir de regard sur les autres et autour de soi. Hymne à la solidarité. On va vous raconter, j'espère que vous allez le faire, vous allez faire ce plaisir. En tout cas, la genèse de cette histoire, d'un deuxième roman destiné lui aussi, on en est certain, un formidable succès. D'ici 13h30, des reportages, des invités, des surprises également pour vous, Laetitia Colombani. On va savoir un peu plus sur votre parcours, bien sûr, sur votre univers. Mais comme le veut la tradition dans ce journal inattendu, vous aurez tout loisir dans un instant de commenter l'actualité du jour. Mais auparavant, il va falloir nous offrir votre autoportrait. Bien brossé, bien tressé, s'il vous plaît.
Je vais essayer.
Je vous écoute.
Alors, je m'appelle Laetitia Colombani. Je suis scénariste, cinéaste, comédienne et plus nouvellement romancière. Depuis que je suis enfant, j'adore les histoires, j'adore qu'on m'en raconte, j'adore en raconter, que ce soit par le biais du cinéma, du théâtre ou de la littérature. Je vis dans un univers de fiction et j'aime que cette fiction m'emmène très très loin de mon quotidien. Mes projets m'ont emmenée dans des lieux aussi différents que des hôpitaux psychiatriques, des villages d'intouchables en Inde, des ateliers de fabrication de perruques ou plus récemment un foyer pour femmes en difficulté. Et chacun de ces endroits m'a passionnée et touchée. Je crois que je ne pourrais pas écrire sur des sujets qui ne me bouleversent pas. Je suis quelqu'un d'émotif, de gourmande, de très bavarde. Je suis perfectionniste, je suis féministe et humaniste, mais je ne conçois pas qu'on puisse être l'un sans être l'autre. Je suis rêveuse, idéaliste et très très obstinée. Et j'aime particulièrement cette phrase de Jean Cocteau qui est devenue ma devise. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi.
Laetitia Colombani, et sans note, je le précise pour ceux qui nous écoutent à la radio seulement, qui ne regardent pas en ce moment sur RTL.fr. Allez, sans plus tarder, on va s'arrêter sur l'actualité du jour. Vous êtes une grande consommatrice d'infos ? Ou peu ?
Des bonnes infos, des bonnes nouvelles, oui.
On pourra intervenir à tout moment. L'actualité de ce samedi 15 juin, avec Notre-Dame, 2 mois après l'incendie qui a ému la France et le monde entier, une première messe va être célébrée tout à l'heure à 18h à l'intérieur même de la cathédrale. Grand week-end de sport, bien sûr, finale du top 14 de rugby, finale de pro de basket ou encore 24 heures du Mans. Et puis le temps, Valérie Quintin, de gros orages, 9 départements en vigilance orange cet après-midi. Bonjour à vous.
Bonjour, oui, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme, le Rhône, l'Isère, l'Ain, Limousin, la Savoie et la Haute-Savoie. Pour l'instant, on a de gros orages en Lozère et en Aveyron. En Aveyron, ça touche aussi bien sûr l'Auvergne, des orages qui vont s'intensifier en allant vers les Alpes au fil des heures. Ailleurs, on peut quand même espérer un soleil assez généreux. C'est le cas en Île-de-France, c'est le cas aussi dans le Nord, en Picardie, en Haute-Normandie, dans les Pays de Loire, en Vendée ou encore sur l'Aquitaine où ça va se lever après les orages de la nuit. On a quelques averses qui vont perdurer quand même le long des côtes de la Manche et puis un petit peu d'instabilité en Languedoc-Roussillon, mais il y aura du soleil en PACA et en Corse. Les températures cet après-midi, un petit 16 à Rodez, 18 à La Rochelle et Saint-Brieuc, 20 degrés sur Montluçon, 21 à Bourg-en-Bresse et Arcachon, 22 degrés à Paris, à Troyes et Charleville-Mézières, 24 à Nice et 27 degrés à Bastia.
Merci mille fois Valérie Quintin.
Mais de rien.
Attention Laetitia Colombani, la météo complète, comme Valérie, ce sera tout à l'heure. À 13h, ce sera avec vous. Vous allez vous prêter à ce jeu-là, Madame Météo.
Ouais, sans souci. Avec joie.
Merci à vous.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec comme un symbole une première messe deux mois après l'incendie Notre-Dame ce soir à 18h, célébrée à l'intérieur même de la cathédrale, dans une toute petite salle où une quarantaine de personnes pourront accéder casque de chantier sur la tête, compte tenu bien sûr des risques inhérents aux dangers toujours présents à l'intérieur. Antoine-Marie Préaud, conservateur des monuments historiques d'Île-de-France, rappelle que cette première messe ne veut pas dire que la cathédrale est aujourd'hui totalement sécurisée.
C'est important de rappeler qu'aujourd'hui les voûtes n'ont pas pu être approchées parce qu'elles sont sous péril, toute vie humaine à interdiction de s'en approcher. D'abord, elles ont été largement mises en chauffe par le dessus pendant l'incendie de la charpente. Et ensuite, inondées par les pompiers, elles s'assèchent depuis deux mois. Et on craint que dans cette phase d'assèchement, des mortiers se rétractent avec des chutes de pierre. L'édifice aux yeux du monde est sauvé. C'est pas tout à fait le cas, puisque tant que les voûtes n'ont pas été diagnostiquées et qu'on n'est pas capable d'assurer leur stabilité, on sera pas capable de dire que la cathédrale est sauvée. L'enjeu des prochaines semaines, des prochains mois, c'est de pouvoir s'en approcher et de pouvoir définitivement dire non, non, elles ont bien résisté, elles tiennent encore. Tel qu'un édifice gothique est pensé, si les voûtes tombent, l'édifice tombe. C'est un équilibre très savant de deux immenses murs qui sont poussés depuis l'extérieur par les arcs-boutants et retenus depuis l'intérieur par les poussées de la voûte. Et donc si les arcs-boutants lâchent ou si la voûte lâche, l'édifice tombe. Il est impossible de dire aujourd'hui que la cathédrale est sauvée.
La messe à 18h en tout cas, Antoine-Marie Préaud avec Anne Le Hénaff. Réaction peut-être Laetitia sur la foi qui déplace, on le sait, beaucoup de choses, des montagnes ou autres. Et dans vos livres, par exemple dans la Tresse, on va en Inde, hein, dans un temple, et même avec son enfant sur le dos, Smita arrive à monter jusque là-haut.
Qu'elle soit d'une religion ou d'une autre, tient une grande place dans la Tresse et également dans les Victorieuses.
Où là, les religions sont mélangées en plus.
Oui, absolument mélangées. Et puis, il y a aussi la foi de Blanche Perron,
dont on va parler
tout à l'heure, qui était quelqu'un qui a puisé sa force dans sa foi religieuse.
À Lorient, après la mise en examen hier soir de la passagère de la voiture folle qui a passé sa première nuit en prison, le chauffard reste lui toujours introuvable 6 jours après. Et puis à Grenoble, les deux enfants fauchés par un conducteur hier après-midi sous l'emprise de stupéfiants. Les deux enfants sont toujours en urgence absolue. L'homme, lui, de 43 ans, bien loin du délit de fuite du couple lorientais, a tenu à porter secours immédiatement aux enfants et à leur nourrice, légèrement blessée. Elle, Serge Peillot, a pu rencontrer Fanny, mère de famille et témoin de l'accident hier après-midi.
Ça aurait pu être mon enfant par terre. Et on a le cœur d'une maman, quoi. De voir un petit bout comme ça allongé par terre, inanimé. Moi, je vous cache pas que j'ai pleuré et que ça m'a complètement refroidi. Hein. On prévient à chaque fois les enfants, faites attention, regarde bien. Parce qu'ici, il y en a qui passent à 80. Hein. Faut pas se voiler la face. Le malheur est arrivé. Le choc a été très violent. Et tous les gens autour qui criaient, c'était vraiment horrible. On a tous pleuré. Hein.
Témoignage recueilli par Serge Puyot, RTL Grenoble. Une pause dans un instant. Week-end de sport.
Le journal inattendu sur RTL
avec Laetitia Colombani et Christophe Pacaud. Père. Le journal inattendu sur RTL avec Laetitia Colombani et Christophe Pacaud.
Laetitia Colombani qui est une fan de sport.
Je vis avec un fan de sport, donc par procuration, je le suis un peu.
Très bien. Ce soir, vous savez ce qui se passe en rugby, par exemple ?
Oh là, je sais que ce soir, j'aurai pas accès à mon poste de télévision.
Ah, vous écouterez la radio, mais malheureusement, il y aura aussi un match de rugby.
Oui.
À 20h45, c'est la grande finale du top 14. Mais oui, c'est un partage aussi des couleurs différentes. Clermont face à Toulouse. En tout cas, les supporters sont prêts.
C'est jour de fête quoi qu'il arrive, donc on va tout donner nous public pour pouvoir les pousser à la victoire, parce qu'on l'attend ce bouclier à Clermont, on veut qu'il revienne.
On a confiance en notre équipe, bon jamais 203, on a gagné 2 boucliers et là c'est le troisième, ça c'est sûr, on va pas faire le voyage à vide. Hein.
On y croit, allez la SM.
C'est grâce à Toulouse s'il y a une aura qui revient vers le rugby parce qu'on voit du jeu, du spectacle. On sera au Stade de France et en espérant aller place du Capitole pour le bouclier.
Ah, il faut apprendre à chanter, Laetitia Colombani. Ah oui. Voilà. En tout cas, si vous voulez rentrer à la maison et avec un peu plus de savoir encore, le bouclier de Brennus, c'est ce qu'on offre à la fin.
Oh, oui, je connais.
Vous connaissez. Et on l'appelle également le bout de bois.
D'accord.
Bout de bois qu'a touché notre expert Christophe Dominici, qui nous donne son avis sur cette grande finale.
Clermont est autant favori que Toulouse. Alors, si on regarde leurs deux confrontations, hein, Toulouse a fait match nul à Clermont. Et Toulouse s'est imposé de 3 points à la dernière seconde, 47 à 44 au Stadium. Après, c'est deux rugby différents. Clermont est beaucoup plus sur la puissance, sur la qualité athlétique de ses hommes et de ses individus, tandis que Toulouse est beaucoup plus axé sur la pensée du rugby. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont moins dans le défi physique, ils sont plus dans le déplacement. On voit avec Colby, notamment leur arrière sud-africain, qui est un phénomène. On est beaucoup plus dans l'évitement, dans le côté feu follet, qui fait que cette finale est assez indécise. Je donnerai un petit avantage au Stade toulousain par rapport à ce que j'ai vu tout au long de la saison quand ils ont été dans le dur. Les Clermontois, quand ils ont été dans le dur, ils ont perdu. Dès que ça devient facile, ils récitent. Et dès qu'on leur impose un rugby, ils sont un petit peu en difficulté. Donc, voilà, c'est une finale magique. C'est une finale exceptionnelle pour le rugby français. C'est ça qui est important. Régalez-nous. Parce qu'on en a besoin.
Régalez-nous parce qu'on en a besoin. C'est une belle devise, ça aussi. C'est pas du Cocteau, c'est du Dominici, mais j'aime bien.
C'est très beau.
Se régaler avec des couleurs différentes. Soirée rugby, en tout cas, sur RTL, à partir de 20h. Des belles valeurs. Vous êtes bordelaise, hein, c'est bien ça?
Oui.
Donc c'est plutôt foot à Bordeaux, habituellement, équitation?
C'est foot, c'est rugby, c'est un petit peu tout, oui.
D'accord, foot féminin aussi?
Foot féminin.
Ah, ça, c'est bien. Vous regardez un petit peu? Vous avez vu cette explosion en ce moment?
Oui, je trouve que c'est formidable. Moi, quand j'étais enfant, j'avais pas l'occasion de voir des matchs de foot féminin, on n'en parlait pas du tout, du tout. Et là, je vois ma fille de 8 ans commencer à regarder.
En tout cas, moi, j'ai déjà un livre pour elle, ses filles, ça s'appelle Les Victorieuses, ça serait bien. Hein,
elle l'a déjà.
Pour la finale, en tout cas pour les demoiselles du foot qui nous représentent avec le beau maillot bleu, blanc, rouge. Début également de la finale de basket ce soir, l'ASVEL, Villeurbanne face à Monaco. Et puis départ, bien sûr, de l'épreuve mythique à 15h, automobile des 24h du Mans. C'est à suivre sur RTL. Mais là, maintenant, Laetitia Colombani, je vous amène à un endroit que vous connaissez. C'est vous qui l'avez redécouvert, peut-être pour beaucoup, en tout cas dans votre livre. Moi, je l'ai découvert. C'est un palais de femmes, palais des femmes, qui se situe dans Paris.
Oui.
11e arrondissement.
Oui, 11e arrondissement, rue de Charonne.
Et c'est le thème de votre livre, c'est la base de votre livre, avec une avocate qui... On va pas tout dévoiler, hein. Moi, j'aime pas du tout quand on spoil. Moi, je dis jamais, vous savez, le dos des livres avant.
Ah oui,
la quatrième. Ouais, je trouve ça insupportable parce qu'on découvre trop de choses. Mais là, on peut quand même situer effectivement cet endroit parisien.
Oui, le Palais de la Femme, c'est un des plus grands foyers d'accueil des femmes en Europe. C'est un lieu où vivent 400 femmes qui sont issues de toutes les traditions, de toutes les religions. On y parle des dizaines de langues différentes. C'est un lieu d'accueil, un lieu qui redonne espoir à des femmes qui ont été malmenées, cabossées par la vie. Et qui, voilà, qui forme une petite communauté passionnante.
Et à l'intérieur, il y a une avocate qui arrive, qui est en plein burn-out, et qui vient une heure par semaine s'occuper de ces femmes, être écrivain public, un métier qui a presque disparu aujourd'hui en France.
Mais c'est un métier qui avait disparu et qui revient, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas suffisamment bien le français ou qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue écrite et qui ont besoin des écrivains publics pour rédiger leurs courriers, toutes sortes de lettres, des demandes de dossiers administratifs.
Mais ça, on n'en parle pas.
Et parfois, des demandes un peu personnelles ou farfelues.
Ouais, oui. C'est assez magique. Le but, c'est de montrer que ensemble, on est plus fort.
Oui, moi, je suis très sensible à cette idée, à ce lien qui existe entre les êtres. Là, je voulais créer un lien entre des personnes qui, a priori, n'ont rien en commun, ces femmes de ce palais, donc ces femmes malmenées par la vie, et puis ce personnage de Solène, cette avocate qui, a priori, a tout réussi, qui est une femme accompli,
oui.
Du moins tout le monde le pense, qui vit dans un beau quartier, dans un bel appartement, qui a un compte bancaire bien rempli et qui pourtant a perdu le sens de sa vie. Et elle va retrouver ce sens-là au contact de ces femmes qui sont dans des situations difficiles.
Ça, c'est le premier destin, mais vous repartez en marche arrière, un siècle auparavant, on peut le dire à peu près,
oui.
C'est ça. Et là, vous nous faites découvrir une personne que peu de gens connaissaient, qui était quand même chef dans l'armée du salut.
Oui, elle s'appelle Blanche Perron. Elle était mariée à Albin Perron et ensemble, ils étaient les chefs de l'armée du salut en France. Blanche s'était engagée très très jeune dans l'armée du salut à la fin du 19e siècle, alors que l'armée du salut était un tout jeune mouvement qui n'était pas très bien accueilli d'ailleurs. Mmh. Et cette femme et son mari ont décidé de bâtir, de construire des foyers d'accueil pour les démunis et elle a dévoué, Blanche, toute sa vie à ce combat, en particulier à l'accueil des femmes.
l'accueil des femmes. Hein. Et donc, elle va, on va pas tout dévoiler. C'est toujours très embêtant quand on parle d'un livre qui vient juste de sortir il y a un mois, mais elle va tout faire pour que ce palais des femmes existe. Et puis, on a un tout petit peu dévoilé tout de même. Il existe puisque vous l'avez visité il n'y a pas si longtemps.
Oui, ce palais qu'elle fonde pour les femmes, puisqu'elle constate qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans la rue, parfois avec leurs enfants. Ce palais qu'elle fonde, il est toujours aujourd'hui en activité. Il est resté fidèle à cette vocation qui est accueillir les femmes en difficulté. Et donc, presque 100 ans plus tard, c'est un lieu de vie que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir.
Un lieu qui résonne encore, et vous avez dit, on écrit des courriers, on y vit, on y mange, on y danse aussi, il y a même des cours de Zumba, et puis on a choisi une petite chanson en lisant votre livre, parce qu'il y a un petit passage où on parle de diamonds, de diamants, ce diamant que sont ces femmes, et cette chanson de Rihanna. Le palais des femmes. Les victorieuses, on en reparle dans 3 minutes sur RTL.
Laetitia Colombani est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
C'est 16 juin.
Le journal inattendu sur RTL avec Laetitia Colombani et Christophe Paco.
Les victorieuses et résistent. Oui, il y a un lien, Laetitia Colombani. Parce qu'on n'écrit pas comme ça, on n'arrive pas comme ça. À quel âge j'avais commencé à écrire?
Je dirais à peu près vers 10 ans, dans l'enfance. Oui.
J'ai commencé. Puis après, pour sortir les deux romans, c'est la quarantaine.
Oui.
Je peux me permettre, hein, ça se dit
absolument.
Pas.
Absolument.
Vous avez une vie avant, vous avez un parcours assez phénoménal. On va revenir tout à l'heure sur le cinéma, après 13 heures. Et puis également, cette comédie musicale, ça, c'est une petite pépite, quoi, qu'on a retrouvée, évidemment, dans votre carrière, c'est d'avoir coécrit cette comédie musicale.
Oui, ça, c'est une porte qui s'est ouverte pour moi, grâce à France Gall, qui m'a proposé de coécrire donc son spectacle Résiste sur les chansons de Michel Berger. Jusque-là, je travaillais exclusivement pour le cinéma. Et France Gall m'a montré que finalement je pouvais écrire pour la scène, et ensuite je me suis dit pourquoi pas pour la littérature, mais ça a été une très très jolie expérience.
Ça vous a amené à la littérature ou c'était déjà dans votre tête? Oui, depuis l'âge de 10 ans vous avez votre petit carnet, j'imagine.
J'ai un petit carnet à idées comme ont beaucoup d'écrivains ou de scénaristes. Quand j'avais 10 ans, j'ai développé ce goût de l'écriture grâce à un de mes instituteurs qui me demandait d'écrire des petits textes toutes les semaines sur des sujets libres. Et cet instituteur avait dit à mes parents, je pense qu'un jour elle sera écrivain. Moi, à l'époque, je ne rêvais que de cinéma. Je voulais être actrice.
Des petits poèmes, c'était quoi?
C'était des histoires, des petites nouvelles, d'accord. Des poèmes aussi. J'aimais la poésie, c'était plus après, durant l'adolescence. Mais je dois dire que cet enseignant m'a donné le goût d'écrire. Et puis, je l'ai retrouvé très récemment dans une dédicace en librairie. Il m'a dit, voilà, j'avais raison, mais tu as quand même mis 30 ans à le faire.
Vous avez fait beaucoup de choses. On y reviendra, j'étais dans le cinéma. Résiste, qui est une expérience assez incroyable d'être avec France Gall et d'écrire, c'est un style différent, même si dans les livres aujourd'hui on écrit plus vite qu'avant, c'est ça la différence par rapport aux grands écrivains d'antan?
La différence, alors par rapport à Résiste, c'est un exercice très différent, parce qu'écrire une comédie musicale, c'est avant tout mettre en valeur les chansons. Les gens ne viennent pas pour le texte, les gens viennent pour les chansons, il faut les amener de la manière la plus naturelle qui soit, et puis il faut créer aussi un arc dramatique, qu'on ait l'impression d'être projeté dans une histoire, que les chansons puissent résonner d'un sens un petit peu différent. Donc ça, cet exercice était absolument passionnant. Ensuite, la littérature, pour moi, c'est un chemin de liberté inouï et incroyable que j'ai vraiment découvert, puisque le cinéma n'offre pas la même liberté. Il y a des contraintes de budget, des contraintes d'argent. L'écriture littéraire, ça a été pour moi une sorte de révélation.
Une révélation. Vous êtes bien parti, j'imagine, déjà dans le troisième roman.
Oui, j'ai commencé à travailler.
Ça ne m'étonne pas. Même si vous travaillez en ce moment sur les repérages du prochain film qui sortira pour vous, parce que ce sera votre troisième film, si je ne me trompe pas, et qui sera consacré évidemment à la tresse. Aujourd'hui, ce sont les victorieuses, la rencontre avec France Gall, et puis une petite pépite que vous avez pu écouter avec France Gall. Chanson inédite de Michel Berger qui est sortie pour l'occasion, en tout cas.
Alors ça a été un moment très fort pour moi, puisque j'étais dans l'appartement de France Gall, juste à côté du piano de Michel Berger. Et France dit, voilà, il y a une chanson que je voudrais intégrer au spectacle. Michel l'a enregistrée, mais elle n'a jamais été diffusée. Et elle me met cette chanson, elle me fait écouter cette chanson. Et je suis prise d'une émotion extrême et je me dis, je ne vais pas me mettre à pleurer. Je suis face à France Gall à écouter du Michel Berger et cette chanson m'a profondément touchée et nous l'avons intégrée, oui, dans la dernière partie du spectacle.
Dans le dernier spectacle. Vous m'avez confié tout à l'heure en antenne que vous avez votre petite playlist intime hein, à chaque fois pour écrire. Donc des chansons oui. comme celle-ci peuvent vous inspirer pour un prochain roman.
Oui, en fait, à chaque travail, à chaque roman ou chaque scénario, je me fais une petite playlist comme une bande originale d'un film que je passe et je repasse. Et cette playlist m'aide à parfois trouver des scènes, en tout cas trouver l'ambiance, trouver le ton, l'humeur de certaines séquences. Donc je travaille beaucoup en musique.
La musique, justement, pour conclure cette partie sur les victorieuses, avec dans votre playlist certainement ce grand film américain qui arrive derrière nous, ce Gladiator. Pourquoi ce choix ?
Moi, ça, c'est une musique. J'écrivais des parties entières de La Tresse en écoutant cette chanson. Elle me touche parce qu'elle est écrite dans une langue à la fois inconnue et universelle. Je n'arrive pas à identifier cette langue. Je crois que c'est une langue inventée. Et en même temps, j'ai l'impression de comprendre exactement ce que raconte cette chanson. Donc, elle me trouble et elle me touche beaucoup.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson ?
Pour moi, elle parle de la liberté, elle parle d'une forme d'universalité, d'une émancipation. En tout cas, moi, c'est ce que je veux entendre. Il y a une forme de gravité et d'espoir en même temps.
Laetitia Colombani, merci en tout cas pour toutes ces précisions, ces anecdotes sur votre façon de travailler. On va parler de La Tresse, évidemment, qui était un succès phénoménal il y a 2 ans. Et depuis un mois, Les Victorieuses, que je vous conseille, roman formidable, à 100 ans d'écart entre Solène et Blanche. On y reviendra là aussi tout à l'heure dans la deuxième partie de votre journal inattendu.
RTL.
Le journal inattendu.
RTL 13h.
Journal inattendu de Laetitia Colombani.
13h, les titres de l'actualité, Christophe Paco.
À Grenoble, les deux enfants sont toujours entre la vie et la mort. Après avoir été fauchés sur un passage piéton par un homme sous l'emprise de stupéfiants, le chauffard a voulu les conduire à l'hôpital, mais il a été hier intercepté par la police qui s'est chargée de conduire les deux enfants jusqu'à l'hôpital, justement, de Grenoble. À Lorient, toujours aucune trace du chauffard, lui, de 20 ans, qui a percuté 2 enfants. L'un est mort, le deuxième est toujours en réanimation. La passagère du véhicule, elle, s'est rendue à la police il y a 2 jours. Elle a été mise en examen hier soir et a passé sa première nuit en prison. Notre-Dame, 2 mois après l'incendie qui a ému la France et le monde entier, une première messe va être célébrée cet après-midi 18h à l'intérieur même de la cathédrale, derrière le chœur, avec une 30aine de religieux qui pourront y assister équipés d'un casque de chantier. Le parvis Notre-Dame, rappelons-le également, reste lui fermé au public. Barack Obama est en France depuis hier soir. Il va passer une semaine de vacances en famille dans une grande propriété de la région d'Avignon. Le programme des Obama est top secret. Plusieurs dizaines de personnes étaient en tout cas hier soir à l'aéroport pour l'accueillir et l'apercevoir. Grand week-end de sport. Laetitia Colombani est ravie. Ce soir, elle ne pourra pas se balader sur les chaînes de télévision, n'écouter toutes les radios. Elle aura du rugby, oui, comme sur RTL. 20h, la grande soirée, 20h45, le match Clermont-Toulouse, finale du top 14. Finale de pro également, de basket à Zvezda Monaco. Au départ des 24h du Mans à 15h. Et maintenant, Madame Météo, Laetitia Colombani, la météo du jour, s'il vous plaît.
Alors, des orages cet après-midi entre le sud-ouest et l'Alsace, en passant par les Alpes et le Massif central. Ailleurs, nuages et éclaircies alterneront avec quelques averses près de la Manche. Les températures iront de 16 à 28. Il fera 21 degrés à Bordeaux, 22 à Paris et 24 degrés à Nice.
Ben c'est bien, tout le monde est content. Parce que vous connaissez la région niçoise, je sais que vous étiez à un salon à Cap d'Ail et puis Bordeaux, on l'a donné, hein, 22
oui,
degrés.
Oui, Bordeaux, 22, c'est bien. Peut mieux faire.
Laetitia Colombani.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Laetitia Colombani et Christophe Paco.
La voix que vous entendez ne sort pas de ma bouche. C'est ma voix intérieure. Mon mari a dit que mon mutisme ne le dérangeait pas. Ce qui est étrange, c'est que je ne me sens pas silencieuse à cause de mon piano.
La leçon de piano, vous avez choisi, et la musique. On a récupéré un extrait, évidemment. C'est quoi ? C'est un premier déclic avant d'aller vers le film ? Avant d'écrire La Tresse, avant d'écrire Les Victorieuses, Laetitia Colombani ?
C'est un choc, c'est mon plus grand choc de cinéma, La leçon de piano. J'avais 17 ans quand j'ai vu le film. Je crois que je suis allée le voir toutes les semaines. Cinéma, jusqu'à temps qu'il ne soit plus à l'affiche. C'est un film qui m'a bouleversée, qui exprime une forme de romantisme gothique, violent. C'est un film qui est à la fois extrêmement sombre et lumineux. C'est un film qui parle de la féminité, du désir. C'est un magnifique rôle pour une actrice. Elle ne dit pas un mot de tout le film et elle exprime tellement. Voilà, c'est un chef-d'œuvre, Jane Campion, et c'est la plus grande cinéaste pour moi au monde.
Le cinéma, c'est la base pour vous, la base de vos études, avec un mémoire à la fin sur la folie, c'est bien cela?
Oui, j'ai fait des études à l'école Louis Lumière, avec un mémoire sur la folie au cinéma, qui a ensuite entraîné la rédaction du scénario d'À la folie, pas du tout, mon premier film.
À la folie, pas du tout, mais Star et moi, il est question de folie. Comment on arrive à rentrer dans le métier? Comment ça se passe pour trouver un réalisateur, pour trouver un financement? On appelle quelqu'un?
Alors, ma toute première chance, c'est un stage à l'âge de 20 ans, quand je viens d'entrer à l'école Louis Lumière et je cherche un stage. Et à Bordeaux, la ville où j'habite, se tourne Beaumarchais l'insolent. Voilà, un film d'Edouard Molinaro. Oui. Et sur ce film, je suis à la recherche d'un stage, je suis engagée comme figurante. Et puis, d'un seul coup, il manque quelqu'un dans l'équipe technique. Et j'ai la chance de pouvoir être engagée dans cette équipe caméra et de passer 2 mois avec toute l'équipe du film. C'est mon premier travail dans le cinéma.
Et maintenant, on va arriver à l'instant d'importance où il va falloir trouver, financer, réaliser votre premier film. Ça se passe comment, puisque votre premier invité vient d'entrer en studio?
Alors j'écris le scénario d'À la folie, pas du tout. C'est la partie pratique de mon mémoire de Louis Lumière sur la folie au cinéma. Et puis il faut que je trouve un producteur. Moi, à l'époque, j'ai réalisé 2 courts-métrages, mais je ne connais pas bien le milieu du cinéma. Je connais une personne qui est le producteur de Beaumarchais l'insolent, donc ce film sur lequel j'avais fait mon tout premier stage. Et j'envoie par la poste mon scénario à Charles Gassot, donc, et en me disant, je pense que je n'aurai jamais de réponse, mais je le fais quand même. Peut-être au mieux, j'espère, un conseil, un avis. Et moins d'une semaine après que j'ai envoyé mon scénario par la poste, ben, je reçois un coup de fil de Charles Gassot.
Charles Gassot, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes là. C'est bien raconté?
Elle raconte très bien.
C'est son troisième roman.
C'est ton troisième roman. Mais elle écrit divinement bien sur les femmes, sur la dignité de la femme. Et faut la remercier de ça. C'est formidable. C'est une magnifique accompagnatrice.
Comment fait-on confiance à une jeune fille de 25 ans qui arrive chez vous, qui veut écrire un film sur la folie, comme À la folie, pas du tout?
Parce que j'étais en pleine bourre à l'époque. Je faisais à peu près 3 longs métrages par an.
Oui, on va les citer. La vie est un long fleuve tranquille. Tanguy.
Tati Daniel.
La cité de la peur. Un must quand même. Le goût des autres.
Ceux qui m'aiment prendront le train, oui. Un air de famille. J'étais en pleine bourre. Que des petits films, oui. Et donc voilà. Et puis je partais avec Patrice Chéreau, figurez-vous. Je partais avec Patrice Chéreau pour préparer un film avec Al Pacino qui s'appelait Betsy and the Emperor. Et il devait faire le rôle de Napoléon. C'était un film à Sainte-Hélène magnifique. C'était un rapport entre lui et une jeune fille qui était la fille du gouverneur de Sainte-Hélène.
D'accord.
Que j'ai jamais pu monter. Ah. C'était quand même fou. Et c'est une des raisons qui m'a fait aussi d'arrêter le cinéma. Parce qu'à un moment donné, maintenant, on fait un cinéma pour la confiserie. Et moi, confiserie, regardez le cinéma, l'endroit le plus important des salles, c'est la confiserie. Et j'englobe de la confiserie, les Sofica, les télés qui veulent qu'on fasse un film pour eux, donc ils tirent vers le bas, cinéma. C'est mon point de vue. Donc, j'arrête ça, ça m'amuse plus. Et donc, j'ai emmené le scénario de Laetitia avec moi dans l'avion. Et arrivé à New York, je l'ai relu, je l'ai re-envoyé en France pour que mes camarades qui travaillent avec moi le lisent. Et j'ai appelé Laetitia pour dire, en rentrant de New York, il faut qu'on se voit, il faut faire ce film.
C'est incroyable. Voilà. Coup de cœur, donc, finalement, mais pour Laetitia et pour son
cinéma.
Scénario.
C'est que ça doit être ça, le cinéma. Ça doit pas être de la comptabilité, parce que c'est ce qui devient malheureusement un peu.
Alors, À la folie, pas du tout, comme mes stars à moi. Expliquez-moi comment, quand on est une jeune réalisatrice, on arrive à convaincre Audrey Tautou, Cadmerade, je mélange tout, Catherine Deneuve ou Samuel Billan pour le premier, pour La folie, pas du tout, par exemple.
À partir du moment où Charles m'a dit, oui, je vais produire ton film, les portes se sont ouvertes. Vous avez cité tous les très nombreux grands films que Charles a produits. Moi, j'avais 25 ans. Je ne connaissais absolument personne, mais d'un seul coup, j'avais accès à des comédiennes comme Audrey Tautou, Samuel Le Bihan, Isabelle Carré, enfin à des acteurs, et j'ai pu avoir vraiment une grande liberté. Charles m'a dit, voilà, choisis. Où est-ce que tu veux tourner? À Bordeaux? Très bien, on ira à Bordeaux. Tu veux tourner avec Audrey Tautou? Mais je l'appelle. Et d'un seul coup, les choses se sont faites avec beaucoup de facilité.
Donc la 13, elle est tournée avec qui?
Là, c'est encore confidentiel.
Mais non, Charles Gassot est là.
Je n'ai pas de scoop pour l'instant.
Dire, hein. Mais justement, non, il ne va pas le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et que c'est pas visuellement sur le contrat n'est pas encore signé.
Donc là, c'est le repérage.
Je vois comment ça se passe.
Oui, on est en casting, en repérage.
Oui. Vous, aujourd'hui, vous avez dit, donc vous avez quitté le cinéma, trop de confiserie, j'ai bien compris, oui, ça peut nuire à la santé.
En plus, oui.
En plus, vous occupez d'une association aujourd'hui humanitaire.
Depuis, j'ai tourné un film, il y a maintenant 25 ans, avec Benoît Delépine. Et on a tourné qui s'appelait Michael Cole contre la World News Company. Je
pense extraordinaire.
Pour un journaliste, ça lui parle un peu.
Ah, j'adore.
Et donc, on a tourné où ? À Madagascar. Et quand vous tournez un film, vous êtes là en préparation. Moi, j'étais là en tournage parce que je suivais mes films. J'étais pas, je restais pas dans mon bureau à Paris. Et on s'est rendu compte avec Benoît Delépine que c'est, ben, on a rencontré des populations de brousse qui sont complètement livrées à eux-mêmes. Qui, encore aujourd'hui, là, aujourd'hui même, dans le sud de Madagascar, on mange des racines. Enfin, faut savoir ça, quoi. Qui n'ont rien, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'école, ils n'ont rien.
Ça se rapproche des intouchables dans le premier livre, dans la tresse.
Très, tout à fait. Et nous, justement, le rôle de la femme est au centre un peu de ce qu'on fait à École du Monde. Et donc, on a créé des écoles. D'abord, parce qu'il faut passer par l'éducation. Et elles sont un peu particulières. Il y en a une, par exemple, qu'on est en train de terminer, qui se terminera jamais, parce qu'on est en train d'améliorer chaque année un peu plus. On y va y faire un collège. L'agence de Nicolas Michelin, c'est très tôt, qui va nous faire bénévolement les plans de l'architecture du collège. C'est pas rien. On a eu Jean-Paul Viguier qui nous avait fait l'école avant. Donc, vous voyez, on essaie de faire du beau, d'amener du beau en brousse. Et nos enfants, dès la maternelle, apprennent l'anglais. Dès la maternelle, commence à étudier. On a battu Macron d'une année parce qu'on a fait une pré-maternelle il y a 2 ans déjà. Et on avance comme ça. Donc ils apprennent le français. Après, ils apprennent le malgache bien sûr. Et en quatrième langue, on les a mis aux échecs. Et là maintenant, on les met à l'astronomie. Donc, vous voyez, ça devient une école complètement pointue en brousse parce qu'il y a pas de raison. Et vraiment une école du monde qu'on a envie de dupliquer. Et je suis là aujourd'hui pour en parler parce qu'on cherche évidemment toujours de l'argent,
toujours.
C'est clair. On cherche aussi des sociétés, des PME qui aimeraient nous retrouver pour éventuellement communiquer en interne nos résultats parce que je pense que c'est un travail d'équipe, un travail de groupe. Vous voyez, c'est ça, important ça. Et puis, je remercie nos donateurs qui nous suivent quand même depuis 22 ans parce qu'on a 22
jamais
ans.
Jamais les oublier.
Vous voyez, on a 22 ans et pour une association qui est minuscule, c'est exceptionnel.
École du Monde, Charles Gassou, vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de journée attendue, si vous le permettez, hein, Laetitia
Colombani, plaisir,
c'est,
oui.
C'est votre première invitée aujourd'hui. Taïa Bonne, c'est un beau choix, c'est dans votre playlist encore.
Hein. Oui, ça c'est l'une de mes chansons favorites.
Magnifique.
Il y a tout un chapitre des victorieuses que j'ai écrit en écoutant cette chanson.
Le passage sur la Guinée, cette femme.
Oui, cette femme guinéenne, oui, absolument.
Ouais. Et ce petit colibri qui vous ressemble, qui apporte cette petite goutte d'eau à chaque fois.
Oui, ça, c'est une métaphore, un symbole qui me touche beaucoup. Le tout petit colibri qui essaye d'éteindre un incendie en portant de minuscules gouttes d'eau avec son bec. Et puis, le tatou lui dit, ça ne sert à rien, tu n'éteindras pas l'incendie. Et il dit, le colibri répond, peut-être, mais j'aurais fait ma part.
Des gouttes d'eau, évidemment, avec ce petit colibri. Et on va revenir dans un instant à la tresse et tout ce qui a été réalisé depuis la parution de votre livre qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires, La tresse, Laetitia Colombani.
Journal inattendu de Laetitia Colombani avec Christophe Paco sur RTL. Dans la perte de poids. Le journal inattendu sur RTL.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton.
Petit Prince, des déclics, Laetitia Colombani, notre invitée, La tresse il y a 2 ans et depuis un mois, les victorieuses, ça vient de sortir. Vous l'avez dit, vous adorez qu'on vous raconte des histoires. Le Petit Prince en fait partie.
Oui, c'est, je crois, la première histoire que mon père m'a racontée quand j'étais enfant. Tous les soirs, il me lisait quelques pages du Petit Prince dans une très très vieille édition, une édition qui date de son enfance, qui tombe un peu en miettes et qui est magnifique.
Vous la gardez, vous la conservez.
Je la garde très très précieusement et maintenant je la lis à ma fille.
Tout comme les cheveux qu'il faut donc garder précieusement aujourd'hui. On le sait un peu plus avec vous. Le déclic, vous en avez souvent parlé, vous avez accompagné une de vos amies qui donc faisait de la chimiothérapie pour trouver des perruques qui coûtent très cher. On l'a souvent évoqué sur RTL. Hein. C'est un prix souvent qui dépasse les 2000, 3000 euros. Pour
oui,
avoir
les perruques en cheveux naturels sont très chères, beaucoup plus chères que les perruques synthétiques.
Et il y a eu beaucoup de réactions, j'imagine, beaucoup de gens qui sont venus vous voir après, en dédicace, qui sont venus vous parler, peut-être après la tresse.
Oui, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me trouver, certaines personnes qui avaient fait don de leurs cheveux, qui étaient très sensibles à cette cause. des femmes, mais aussi des hommes. Donc ça a été l'occasion de rencontrer très très forte.
Il y a une association qui s'appelle Solid Air, S-O-L-I-D, apostrophe R, les cheveux en anglais. Et nous avons envoyé Hortense Crépin dans le 16e arrondissement de Paris pour voir comment ça se passe justement dans ce genre de salon.
On va faire 4 couettes.
D'accord, je crois que c'était une grosse.
Pendant plusieurs, on perd moins de longueur.
Confortablement installée dans le fauteuil du salon de coiffure, Jessica, 35 ans, va donner ses cheveux pour la première fois. Camille Rapin, son coiffeur, lui détaille le processus.
Là, je suis en train d'attacher les cheveux à la longueur qu'on désire pour la future coupe. Après, je vais les couper et après, on va passer au shampoing. Et donc, c'est parti.
Allez.
Quelques coups de tondeuse plus tard, Jessica tient fièrement entre ses mains 38 cm de mèche brune.
Eh oui. Ça, c'est fait, ouais. Je suis donneuse de sang, d'organes. Je dis, ma foi, les cheveux, ça coûte rien. Donc, ça veut dire que des femmes qui perdent leurs cheveux à cause de la maladie, à cause des médicaments, c'est quand même terrible. Donc, si en plus, il faut mettre une fortune dans les perruques, c'est dommage.
Pour faire un don, il faut avoir au moins 25 cm de cheveux à couper, des cheveux sains, non colorés et non dégradés. Pour Camille Rapin, chaque envoi de mèche à Solidaire est une petite victoire.
J'ai déjà accompagné des clientes dans leur perte de cheveux, en leur faisant des coupes progressives pour que ça soit moins brutal, en les aidant à aller choisir leur perruque, tout ça. Et je sais combien c'était important d'avoir une perruque et de se sentir toujours femme. Et elles avaient la chance, elles, d'avoir le budget.
Une perruque coûte en moyenne 450 € et peut atteindre 3 à 4 000 euros selon la qualité. Depuis avril, la Sécurité sociale rembourse mieux, voire intégralement, certaines perruques. Mais au-delà de 700 €, pas de remboursement possible. Carla Maury, coiffeuse et marraine de l'association.
Les perruques qui sont vraiment de tout petit prix sont évidemment de qualité égale à leur prix et vous les lavez, elles ne se tiennent pas. L'idée, c'était ça, c'était vraiment pouvoir apporter un peu plus de dignité aux gens malades. Je pense qu'on est tous égaux face à la maladie, justement. Mais la vie fait que financièrement, on ne l'est pas tous.
464 femmes ont déjà pu s'offrir une perruque grâce à Solidaire. Parmi elles, Valérie, à 50 ans, elle est en rémission d'un lymphome. En décembre, elle a pu s'offrir une perruque grâce à l'association pour à nouveau se sentir femme.
Une femme sans cheveux, c'est une femme qui a perdu tout repère, qui ne peut pas plaire, qui n'a pas de pouvoir de séduction. Sa vie est coupée. On se voit tous les jours en permanence sans cheveux, c'est-à-dire face à un miroir. Ça n'aura pas notre maladie, on ne peut pas oublier. En portant une perruque, on se sent comme toutes les femmes et on se sent moins malade.
Depuis un mois, Valérie a rangé sa perruque, ses cheveux repoussent lentement. Le sujet du roman La Tresse l'a marqué et elle a un message pour Laetitia Colombani.
On ne parle pas du quotidien d'une femme qui perd ses cheveux et lorsque les amis nous délaissent, lorsque les compagnons nous délaissent, on se sent seul, on se sent démuni. C'est bien d'en parler. Franchement, c'est bien d'avoir écrit ce livre. Ouais, je la remercie.
Elle vous remercie, toutes ces femmes.
Je suis très très touchée par son témoignage, ouais. Par ce reportage.
Hortense Crépin qui a réalisé ce reportage donc chez Carla Maury qui tient ce salon de luxe beauté. Il y a de plus en plus de salons de coiffure maintenant qui sont associés à Solidaire.
Oui, oui, ouais. Beaucoup de salons de coiffure sont partenaires. Moi, c'est moi-même grâce à un salon de coiffure à Gradignan, la petite ville à côté de Bordeaux d'où je viens, que j'ai découvert Solidaire.
La Tresse, puis les Victorieuses, La Tresse qui a tellement fait parler, les destins qui s'en mêlent, c'est le cas de le dire, et puis ces départs entre l'Inde, le passage par la Sicile, pour l'arrivée jusqu'au Canada ou jusqu'en France. Pour nous, et encore une fois, il faut faire le maximum pour faire baisser le prix de ces perruques en cheveux naturels. 13h19, c'est votre journal inattendu, Laetitia Colombani. La semaine dernière, à votre place, il y avait Agnès Jaoui qui a voulu vous poser une petite question.
Bonjour Laetitia Colombani, c'est Agnès Jaoui. Et je vais vous poser une question peut-être un peu bête, mais vous pouvez répondre intelligemment peut-être. Alors, est-ce que vous trouvez que les femmes sont suffisamment solidaires entre elles?
Oui, moi je vois beaucoup de solidarité féminine autour de moi. En tout cas, je vois des femmes malades qui sont entourées par leurs amis. Ce que j'ai remarqué avec La Tresse, c'est que j'ai eu beaucoup de femmes qui sont venues me trouver lors des dédicaces en librairie et qui m'ont dit « ce livre, je l'ai offert à ma meilleure amie, à ma mère, à ma fille, à ma belle-mère, à ma collègue ». J'ai l'impression qu'il s'est tissé une forme de chaîne entre ces femmes-là. C'est précisément ce que raconte le roman. En tout cas, oui, je crois beaucoup à la solidarité entre les femmes.
On a tressé une belle solidarité pour aller jusqu'aux victorieuses. Ce qu'on vous souhaite, 1 million d'exemplaires vendus de La Tresse. 35 traductions. La plus belle, le plus beau score à l'étranger, ça se passe dans quel pays pour vous?
En Allemagne, il y a eu beaucoup de... Oui, oui, beaucoup de lecteurs en Allemagne.
Et les victorieuses, c'est déjà un demi-million, c'est combien déjà aujourd'hui? Un mois?
Ah, pour l'instant, j'ai pas les chiffres exacts.
On va appeler chez Monsieur Grasset. Hein,
voilà, il faudrait appeler mon éditeur.
Vous restez avec nous, c'est le journal inattendu de Laetitia Colombani.
Faux.fr. Le journal inattendu sur RTL avec Laetitia Colombani et Christophe Paco.
Il est venu un jeudi après-midi à la pension. Il est venu l'attendre avec la grande automobile noire.
On parle de déclic, hein ? Le Petit Prince, L'Amant, cette fois aussi.
Oui. L'Amant, c'est le film qui m'a fait découvrir Duras. J'avais 15-16 ans au moment de la sortie du film. C'est l'âge de l'héroïne. J'ai découvert le film de Jean-Jacques Hano et j'ai été complètement envoûtée par la voix de Jeanne Moreau qui lit le texte de Duras. Je me suis précipitée en librairie pour acheter L'Amant. Je l'ai lu, je l'ai relu. Et ça, c'est en littérature, c'est ma grande découverte. C'est la prose de Duras qui est une musique envoûtante.
Très envoûtante. Duras, et puis Laetitia Colombani, réalisatrice, on l'a dit, créatrice de comédie musicale, qui a coécrit Résiste avec France Gall, se met à écrire La Tresse, et aujourd'hui Les Victorieux, deux ans après. C'était plus simple de commencer pendant La Tresse, finalement, parce que ça doit être compliqué de réécrire après, non?
Oui, j'ai commencé pendant la sortie de La Tresse. En fait, je m'étais mise au travail très rapidement, donc j'ai pas eu le temps de me demander, de me poser mille et une questions, ou d'être angoissée. J'ai replongé dans l'écriture directement.
Vu le succès, c'est toujours difficile d'écrire un deuxième, hein, j'imagine.
Oui, j'ai essayé de faire abstraction de tout. Je me suis dit, comme pour La Tresse, quel est le sujet qui me touche? Qu'est-ce que j'ai vraiment profondément envie de raconter? Et je me suis enfermée dans la petite chambre de service qui est mon bureau et j'ai passé des mois entiers à écrire et j'étais heureuse de retrouver cette liberté du roman.
Les Victorieux, ça vient de sortir, mais vous travaillez en ce moment sur l'adaptation au cinéma de La Tresse, trois continents, trois pays différents, trois histoires, donc ça me demande des repérages. Vous êtes en plein travail avec votre playlist magnifique que vous nous avez fait partager aujourd'hui, Laetitia Colombani. Pour terminer l'émission, petit coup de fil à l'invité surprise. Bonjour, invité surprise.
Bonjour.
Il va falloir le reconnaître.
Wow. Ah, wow. Bonjour.
Sur un bonjour, vous pouvez reconnaître, Laetitia?
Sur un bonjour, je ne sais pas reconnaître.
Est-ce qu'on peut dire cinéma pour vous? Oui, invité surprise.
Ah oui, cinéma.
On peut dire grand, grand succès?
On peut le dire. On peut le dire.
Alors, pour vous aider, je vais vous mettre une petite musique. Ça vous va?
C'est Olivier. Salut Olivier.
Olivier Nakache, c'est intouchable, la musique évidemment, en septembre. Bravo.
Oui, je suis très 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 heureuse de t'entendre. Et j'aurais rêvé d'être à Cannes pour la projection de ton dernier film Hors Normes. J'ai tellement tellement envie de le voir. Je serai la première dans les salles pour le voir.
Bah oui, tu y seras. On va organiser ça très vite.
Moi, je t'ai invité la semaine dernière, mais bon, j'ai pas voulu venir. C'est le 23 octobre la sortie Hors Normes avec Vincent Cassel, Reda Keteb, Toledano Nakache, évidemment duo gagnant hein, quand même. Faut pas. Vous travaillez ensemble en ce moment sur La Tresse? C'est indiscret de vous demander ça ou c'est juste une amitié?
En fait, on est amis depuis notre premier court-métrage, je crois que Les Petits Souliers, le premier court-métrage de Olivier et Eric, a été fait la même année que mon tout premier court-métrage. Et on s'est connus dans des festivals de court-métrages, on se retrouvait régulièrement, on est devenus amis à cette occasion.
Incroyable, hein?
Exactement. C'était à Lyon, dans les années 2000, et puis on a lié très rapidement d'amitié. C'est ça la vertu aussi de ces festivals de court-métrages, on se retrouve avec des gens qui ont la même envie et le même amour du cinéma et une motivation évidemment décuplée pour essayer de faire un film. Et je me rappelle très bien que Laetitia était en train d'écrire À la folie pas du tout et qu'elle nous avait passé le scénario qu'on avait lu et on s'était dit waouh, elle s'est pas gourée de métier elle.
Et c'est Charles Gassot qui est resté avec nous donc qui l'a aidé, qui a produit ce film. La Tresse, ça sera un très très beau film, ça sera un best-seller, Olivier Nakache.
Oui, c'est sûr. Bon, déjà l'ampleur du roman. Le roman était déjà très cinématographique puisque donc Laetitia a les deux casquettes avec ce point commun qu'elle écrit. Ses scénarios et tout ce qu'elle écrit sont très très bien ficelés. Et là, en lisant La Tresse, on était déjà projeté dans ces trois vies. Et c'est sûr qu'on voit tout de suite un grand film.
Et en plus, comme on connaît maintenant le nom des acteurs que vous avez choisis, Laetitia Colombani, ce sera notre prochaine émission, j'ai bien compris. Merci Olivier Nakache, merci à vous Charles Gassot d'être resté avec nous, d'être fidèle à RTL. Merci beaucoup. C'est un bonheur de partager cette heure avec vous dans le journal
inattendu. J'étais très très heureuse, c'était un merveilleux moment. Merci.
Et comme pour La Tresse, on va offrir des victorieuses à ceux que vous aimez. Formidable parcours de Blanche et de Solène dans Les Victorieuses qui viennent sortir il y a à peine un mois. Au plaisir de vous retrouver, Laetitia Colombani.
Merci
plein
beaucoup.
De choses pour la suite.
À bientôt.
Dans un instant, Confidentiel sur RTL avec Jean-Alphonse Richard ce soir et cet après-midi surtout. On va parler de Demis Roussos.
RTL, le journal inattendu.